Lundi, il sera donc question de 5G à Berne. La commission des transports et des télécommunications du Conseil des États se penche sur une motion du Parti libéral radical qui demande que cette technologie soit déployée d'ici 2024. Isabelle Fiot, c'est un nouvel épisode du feuilleton 5G, un dossier qui polarise pas mal la population depuis un certain temps.
Revenons un peu en arrière. En février 2019, la Confédération octroie les licences aux trois opérateurs de téléphonie mobile pour développer cette nouvelle technologie. Très vite, en Suisse comme dans le monde, certains dans la société civile s'y opposent et plusieurs associations voient le jour, notamment en Suisse romande. S'en suivent des moratoires dans plusieurs cantons avant que la crise du coronavirus ne relègue le dossier sous la pile pendant quelques temps.
Alors, de leur côté, les soutiens de la 5G, eux, évidemment, ils s'inquiètent plutôt du retard.
Oui, à la sortie du premier confinement en mai 2020, le groupe libéral radical dépose une motion à Berne demandant au Conseil fédéral de, je cite, « prendre les mesures nécessaires pour permettre le passage à la 5G, l'objectif étant que les opérateurs déploient à l'échelle nationale un réseau 5G de grande qualité à des coûts aussi bas que possible d'ici 2024 ». Fin de citation. Ce texte, il a déjà été adopté par le Conseil national. Il sera au programme du Conseil des États le 29 septembre et la Commission des télécommunications du Conseil des États se penche dessus ce lundi à Berne.
Alors Isabelle, le souci des opposants, c'est l'impact sur la santé. C'est aussi le manque d'études sur la question. Or, lundi, les parlementaires de la Commission vont sans doute brandir ce rapport dont on parlait, ce rapport de l'Office fédéral de l'environnement.
Oui, car en juin dernier, l'OFEVE a publié le premier rapport de monitoring du rayonnement non ionisant. Son objectif, c'était de savoir à quel point la population est exposée aux ondes potentiellement dangereuses d'appareils comme les antennes de téléphonie, les émetteurs de radio, les réseaux Wi-Fi, mais aussi les lignes électriques, les lignes de contact ferroviaire et les appareils électroménagers. Donc l'année passée, pour la première fois, des mesures ont été faites dans l'ensemble de la Suisse.
Les conclusions sont plutôt rassurantes, non, Isabelle?
Alors, selon Lefebvre, l'exposition de la population au rayonnement est, je cite, « globalement modérée » et la protection de la santé est garantie. Le rapport a effectivement mesuré des valeurs moyennes nettement inférieures aux valeurs limites autorisées. Et puis, concernant les sources de rayonnement, on apprend que dans les lieux publics, sans surprise, ce sont les antennes de téléphonie mobile qui contribuent le plus au rayonnement électromagnétique.
Est-ce que ça veut dire, Isabelle, que ce danger de la 5G que certains craignent est complètement écarté?
En tout cas, l'exposition globale à l'ensemble des rayonnements non ionisants respecte les normes, mais c'est vrai que dès que le rapport a été publié, les opposants ont dénoncé des biais dans la méthode d'analyse. Alors bon, bien sûr, vous nous connaissez, on en parle, on a voulu vérifier, donc nous l'avons lu, ce rapport, enfin notre recherchiste Delphine Sage, qui s'est plongée dans les 76 pages de ce premier monitoring. Vous imaginez un travail ardu et en fait qui suscite pas mal de questions.
Comme quoi, par exemple?
Alors, concernant la méthode, il y a plusieurs points qui nous étonnent. Selon Lefebvre, je cite, l'objectif des mesures est de collecter des données représentatives de l'exposition de la population. Elles sont effectuées là où les gens se trouvent au quotidien, donc il s'agit des quartiers résidentiels, des places publiques, des transports et des espaces intérieurs accessibles au public, comme par exemple les supermarchés, les restaurants, les musées. Fin de citation. Donc en tout, il y a 300 points dans des quartiers et des régions de Suisse. Mais nous avons remarqué qu'aucune mesure n'a été faite sur les lieux de travail, ni dans les écoles de la scolarité obligatoire et dans seulement 4 logements.
Bien vu, mais que répondent les experts de la Confédération?
Les lieux de travail ont été écartés, car selon le rapport, il faudrait un échantillon trop important. Et puis selon Lefebvre, c'est une autre législation qui est en vigueur sur les lieux de travail, donc ça ne concerne pas ce monitoring.
Quid des écoles, Isabelle?
Alors, il est prévu de faire des mesures dans une école primaire, une école secondaire et un gymnase en 2022, donc cette année. Mais en 2021, les experts sont allés dans 3 autres écoles. Et ils estiment en fait que ça donne une bonne première estimation, car ce type de lieux, en fait, ils sont comparables en termes d'utilisation d'Internet avec le Wi-Fi ou de la téléphonie mobile.
Il reste la question des logements?
Oui, les logements, ils sont choisis spécifiquement car ils sont proches d'une source de rayonnement non ionisant déterminante, je cite, déterminante, comme par exemple une ligne de train ou une ligne à haute tension. Mais aucune de ces sources n'était des antennes de téléphonie mobile. Ce qui nous étonne. Donc, selon Lefebvre, les mesures ne font que commencer. En fait, elles ont été retardées à cause du coronavirus. Vous l'avez entendu, seuls 4 appartements ont été analysés. À terme, ils seront une centaine. Donc, à ce jour, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions générales.
Bah, sinon, Isabelle, la technologie 5G, elle existe quand même déjà en Suisse. Est-ce qu'on a récolté des données à proximité de ces antennes qui sont déjà en fonction?
Eh bien, pas vraiment. On nous explique que la part de la technologie 5G dans l'ensemble de la téléphonie mobile est actuellement encore plutôt faible, c'est vrai. Et c'est probablement dû au taux de déploiement encore faible des téléphones mobiles 5G, ou au fait aussi que l'utilisation de la 5G par les opérateurs est encore en partie optionnelle et donc liée à des frais supplémentaires.
Alors, si on récapitule, pas de mesures sur les lieux de travail, peu dans les logements, très peu encore à proximité des antennes en fonction. Est-ce que les conclusions de ce rapport dont on parle beaucoup sont pertinentes finalement?
Bah, disons que entre la présentation plus détaillée qu'on vient de faire et le communiqué de presse de Lefebvre qui conclut donc en juin que l'exposition de la population au rayonnement non ionisant est globalement modérée et que la protection de la santé est garantie, nous on estime qu'il y a quand même une grande marge d'interprétation. Sur le fond, les résultats de ce rapport sont rassurants dans le sens où les normes sont respectées, mais on l'a vu, hein, l'objectif de collecter des données représentatives n'est pas encore atteint. C'est vrai que ce rapport, il pose les bases méthodologiques pour un monitoring sur 5 ans au moins. Et donc, il permettra de comparer l'exposition aux champs électromagnétiques sur la durée.
Alors, 5 ans, c'est intéressant. Sauf que d'ici là, le débat politique aura forcément progressé. Et peut-être même qu'on aura déjà construit des antennes.
Oui, bah c'est la question de la valeur limite d'exposition qui est au cœur de la bataille. Il faut être clair. On a parlé de la motion du Parti libéral radical qui sera discutée en commission lundi à Berne et en plénome fin septembre. Si cette motion est adoptée, les associations craignent qu'elle permette d'augmenter cette valeur limite.
Donc le feuilleton 5G dont on parlait n'est pas tout à fait terminé.
Alors c'est sûr, d'autant plus qu'une initiative populaire est prête et que la récolte de signatures devrait commencer bientôt. Elle s'intitule Safer Phone, protection contre le rayonnement de la téléphonie mobile, un progrès pour la santé et l'environnement. Fin de citation. En attendant, si cela vous intéresse, car tout cela est quand même très complexe, pour plus d'informations, la Confédération a ouvert un site internet sur ce thème, 5g-info.ch. Nous l'avons bien sûr mis en lien sur notre page, on en parle, ainsi que l'argumentaire des opposants qui ont écrit un courrier cet été à tous les parlementaires au sujet de la motion PLR qui sera débattue prochainement.
Merci beaucoup Isabelle Fiot. Merci beaucoup aussi à Delphine Sage qui a lu et qui a préparé ce sujet avec vous.